Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord de notre cargo Radio Caroline pour l'une de nos téléportations dans les années 6, 1976, aujourd'hui. Année au cours de laquelle, en Argentine, s'installe la sanguinaire dictature du général Videla et où l'Afrique du Sud s'embrase lors des émeutes de Soweto, alors que le Concorde effectue son premier vol commercial, que le fondateur de la République populaire de Chine, Mao Tse-tung, décède, que le démocrate Jimmy Carter devient le 39e président des États-Unis et que la firme Apple est créée. Mais pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne notre voyage du jour, 1976, ce sera une rencontre avec la jeune comédienne Miu Miu, 26 ans, qui, en compagnie de l'inoubliable monsieur cinéma de la RTBF, Selim Sasson, évoque alors, tel qu'elle l'a vécu, le tournage d'un film culte mais désormais revu avec d'autres yeux, Les Valseuses de Bertrand Blier, de même qu'elle nous parle, en 76, donc, de l'avocate Gisèle Halimi, qu'elle a rejointe dans son combat pour la pénalisation du viol, qui, à l'époque, n'est qu'un simple délit. Et d'ailleurs, le viol, qu'en pense l'homme de la rue en 1976, on l'entendra, et c'est sidérant. Toujours en 76, nous irons à Floreffe, nous immerger dans un mythique festival folk, le temps des cerises. Nous reviendrons aussi sur un événement oublié et pourtant majeur, le Tribunal international des crimes contre les femmes, organisé cette année-là à Bruxelles. Pour terminer, avec une pétillante Patti Smith dans les coulisses du Cirque Royal. Tout cela en récit et en archives passionnantes. Mais 1976, c'est aussi la terrible sécheresse qui, en Belgique, a siphonné les nappes phréatiques, réduisant drastiquement dans certaines régions l'eau courante et désespérant les cultivateurs, les plaçant bien avant que le dérèglement climatique ne soit acté dans une situation qui lui fait écho 50 ans plus tôt, donc.
La CIB, la Compagnie intercommunale des eaux bruxelloises, pompe des millions de mètres cubes par an sous nos pieds pendant que nous avons le gosier sec. C'est inadmissible. Je veux bien qu'il faut de l'eau pour les Bruxellois et pour les Flamands. Nous sommes d'accord de partager, mais pas à sens unique. S'ils ont de l'eau, qu'on en ait aussi. Moi, j'ai 6 enfants. Ils rentrent de l'école où l'eau est coupée. Ils n'ont pas à boire à l'école. Ils rentrent à 4h30. On doit leur donner à boire. On doit leur faire un souper qu'on ne saurait pas préparer, sauf avec de l'eau achetée en bouteille. Parce que l'eau ici, ce n'est que de l'eau de rivière. Et ici, nous venons nous laver. Mais nous ne saurions pas employer cette eau pour la consommation ménagère, à part nettoyer avec.
L'agriculture est une profession qui ne peut se comparer à aucune autre. Nous dépendons en tout premier lieu du temps. Et contre le temps, nous ne pouvons rien faire. Mais nous dépendons surtout des pouvoirs politiques et du monde des affaires en aval et en amont de l'agriculture. Si dans nos fermes, chacun avait eu 500 000 francs de fonds de roulement, le problème n'aurait pas été si grave. Mais comment a-t-on conduit l'agriculture dans les dernières années, dans les dernières 20 années? On lui a tout simplement imposé des normes de production. On lui a tout simplement imposé des investissements au-dessus de ses possibilités, en lui faisant miroiter un avenir bien meilleur.
Mais cette canicule et la dramatique sécheresse qu'elle a générée touchent en réalité tous les citoyens dont on espère, il y a 50 ans, un changement de comportement.
Il ne sera plus permis d'arroser les pelouses et les jardins. Une exception cependant pour les cours et les potagers qu'on pourra continuer à arroser à l'eau de ville. Les légumes sont donc sauvés. Plus question par contre de nettoyer les trottoirs, les sentiers, les rues et les rigoles. Plus question non plus de remplir des piscines particulières, y compris les petites piscines gonflables des enfants, les étangs ou les bassins d'agrément. Il sera également interdit d'arroser les toits, les façades et même les tentes de camping ou les autres. Vous ne pourrez plus nettoyer votre voiture avec une lance, un tuyau d'arrosage, ceci valant également pour les camions et les remorques. L'eau a été regardée longtemps comme une matière vile et inépuisable. Elle devient aujourd'hui une véritable richesse. La sécheresse de cette année apparaît comme un coup de semonce. Un avertissement qu'il est temps peut-être de reconsidérer nos attitudes et nos habitudes vis-à-vis du problème de l'eau.
Poursuivons notre périple par une rencontre avec une jeune comédienne de 26 ans, Miu Miu, menée à la fin de l'année 1976 par l'un de nos revenants récurrents, on pourrait même dire ami, Selim Sasson, formidable critique cinéma de l'histoire de la RTBF. Une rencontre éclairante à plusieurs égards, vous allez le comprendre. Et pour commencer, Selim Sasson revient sur le film de Bertrand Blier qui l'a véritablement révélé au grand public, cette Miu Miu, de même que Patrick Devers et Gérard Depardieu, Les Valseuses, long métrage culte et qui rencontra un gros succès à sa sortie, mais que l'on revoit désormais avec d'autres yeux, d'autres que ceux à l'époque de la comédienne Miu Miu.
Quand vous y repensez maintenant à ce film, vous, quel souvenir vous a-t-il laissé ?
Ben, un grand, grand souvenir. Vous savez, je pense que les acteurs ont toujours deux souvenirs. Il y a le souvenir du tournage et puis le souvenir qui s'est transformé en bien ou en mal après la sortie du film. Bon. Et moi, donc, là, j'ai un très, très grand souvenir et du tournage, car c'était un film extraordinaire à tourner. Je crois qu'il était encore plus extraordinaire en dehors du tournage, par toutes les aventures qui nous arrivaient. Et après la sortie, puisqu'il a fait un succès étonnant, vraiment étonnant pour tout le monde, qui nous a... Alors ça, c'était... J'ai un souvenir vraiment et d'amour et de grande aventure avec Depardieu et Patrick.
Vous croyez que c'est parce que Bertrand Blier a s'y adopté d'une manière de tourner un peu différente que dans ce film, tout le monde a senti un ton différent, on a senti qu'il se passait quelque chose qu'il y avait entre les acteurs, notamment des liens qui n'existent pas sur les autres plateaux,
mais
probablement.
Oui, mais c'est extraordinaire parce que Bertrand, il nous a pris tous les trois pour ce qu'on était. Je veux dire, il a pris Depardieu pour son enfance, il sentait bien ces choses de voyou. Moi, il m'a pris pour ça aussi, très Paris, très... J'ai beaucoup appris dans la rue, vraiment, quand j'étais des gosses. Patrick aussi. Et donc, il a été le détonateur de quelque chose. Et après, il n'a pas suivi. Il ne comprenait pas, durant ce tournage, qu'on ne restait pas tranquillement à l'hôtel à se reposer pour préparer les scènes du lendemain. C'était impensable pour nous, impensable. On faisait des virées dans tout Valence, dans la région. Ça se terminait toujours très brutalement, très... Mais en tout cas, on s'est senti exister pendant 3 mois. Et lui, par contre, était très... Il ne comprenait pas. Il a pensé à s'enfuir 3 fois, au moins, durant le tournage.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça se terminait parfois très brutalement
Mais ça se terminait par des bagarres, par des flics, par tout ça.
De toute façon, camper ce personnage de champouineuse dans Les Valseuses avec une façon comme ça particulière de jouer sans jouer... Hein, qu'on pouvait, pour qui ne vous connaissait pas, assez facilement assimiler Miu Miu à son personnage. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça ?
Mais moi, j'ai une affection pour Marie-Ange, la petite champouineuse, parce que elle représentait bien le peuple. On a toujours, je pense, toujours mal représenté le peuple au cinéma. On a fait des postières, des employés de banque, des champouineuses, on les a toujours fait laides. Alors que le rêve de ces filles-là, c'est de ressembler à des stars. C'est-à-dire... qu'elles se manucurent les ongles, elles se teignent les cheveux, elles se font des tas de choses comme ça et elles achètent les magazines. Donc elles ont en même temps un peu d'humour, un peu de désespoir et puis elles sont très jolies. Mmh. Elles sont très jolies. Et j'ai eu envie, moi, de faire une fille comme ça, une fille un peu qui essaye de s'arranger, qui essaye de ressembler à une vedette d'après ce qu'elle en a lu dans les magazines. Et Blier a bien trouvé ça, a donné l'humour aux deux voyous et à la fille lui a donné ces possibilités-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, Marie-Ange.
Au cours de cette même émission, enregistrée fin 76 dans un studio liégeois, Miu Miu se fait ensuite plus sérieuse et notamment au sujet du féminisme et du viol.
J'étais pas très féministe, moi. Je veux dire, j'ai eu une période d'ennui quand j'entendais un petit peu le chant féministe. Je trouvais que c'était très agressif, bon. Et puis, ça ne me concernait pas tellement. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de me lancer dans une bataille de femmes pour trouver mon équilibre. J'ai pas besoin d'une croisade pour me trouver dedans. Bon. Mais, ce mouvement qu'il y a eu commence à devenir beaucoup moins agressif, d'ailleurs ne l'est plus du tout, et commence à être constructif. Moi, j'ai été dérangée dernièrement. D'abord, j'ai fait connaissance de Gisèle Halimi, qui est une femme extraordinaire et qui me parle de choses concrètes. Elle me parle des lois qui sont injustes. Elle me parle donc d'une chose qui existe. Bon. D'autre part, j'étais très touchée parce que j'ai fait une émission avec une fille qui avait été violée en France. Et puis donc, je l'ai vue personnellement. C'était un cas de fille violée. On a fait l'émission, elle s'est écroulée en larmes, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Déjà, elle a avoué qu'elle avait été violée, c'était déjà énorme. Elle est venue à la télévision le dire, c'était déjà fou. Elle n'a pas pu aller jusqu'à dire une parole. Elle s'effondrait. L'émission terminée, moi je dis au revoir. Très contente, allez, c'est pas grave, je suis partie. Gisèle de son côté, voilà, on retrouvait nos vies. Elle, elle est rentrée dans son village. Non seulement elle a été montrée du doigt avant parce qu'elle avait été violée, mais quand elle a fait l'émission, elle a été virée de son travail, de son foyer. Elle a été virée parce qu'on n'a pas le droit de ça. Je veux dire qu'une femme, quand elle a été violée, elle devrait dire « Excusez-moi, je ne le referai plus ». Bon, c'est une chose pénible, c'est une chose qui m'a atteinte, ça, parce que je connaissais Violette. Depuis, j'ai eu l'occasion de voir Anne Tonglet, qui doit sûrement plus vous toucher, puisqu'elle est belge, et que ses procès vont se... Anne et Araceli, leur procès va s'ouvrir en février. C'est une loi absolument injuste. C'est une loi... Et moi, je sais maintenant... grâce à Gisèle, qu'on peut faire changer les lois. Puisqu'elle l'a fait changer en France, elle a fait changer la loi sur l'avortement. Bon, vous n'en êtes pas encore là en Belgique, mais enfin, j'espère que ça viendra. Je l'espère réellement. Ce que j'aime aussi dans ce mouvement, le mouvement Choisir, que préside Gisèle, c'est que c'est un mouvement qui aime les hommes et qui ne conçoit pas de ne pas construire avec les hommes. Vous voyez ? L'autre jour, j'étais à une réunion, c'était assez... c'était bizarre, on sentait une telle détermination. Une fille s'est levée, a dit « Moi, je voudrais que les hommes soient là et que... » Elle a été applaudie. Chaque extrémiste était chahuté, ou les extrémistes politiques, ou les extrémistes... Vous savez, on ne veut pas que ce soit un mouvement maudit. On voudrait que ce soit un mouvement qui ait une grande répercussion, qui touche toutes les femmes, qui touche... Bon... C'est pour ça que je suis très, très touchée de ça.
Cinéscope, en 1976, une émission dans laquelle Miu Miu se confie également, je vous le dis comme ça en passant, au sujet de sa rencontre sur un plateau de cinéma cette même année avec Julien Clerc. Mais je vous réserve ce passage pour un futur épisode post-scriptum.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
En 1976, une journaliste du magazine Aujourd'hui Madame, émission diffusée chaque après-midi sur Antenne 2, ancêtre de France 2, se rend dans la rue pour poser à des hommes de catégories sociales différentes des questions très franches au sujet du viol. Pour mémoire, à l'époque en France, le viol est souvent requalifié en outrage public à la pudeur, ce qui est un délit et non un crime, jugé à huis clos avec des peines faibles.
Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme ?
Oui, d'une certaine façon. Ça m'est arrivé.
Vous avez déjà violé une femme ?
Non, je serais incapable de le faire.
Parce que ça m'est pas venu à l'idée.
Sa femme, c'est marrant.
Le viol.
Merci. La violer, non, pas de la violer, non. Certainement pas. D'avoir des pensées, faire des choses.
Qui sont les violeurs d'après vous ?
Des détraqués, certainement, des gens refoulés.
Uniquement ?
Je pense pas que quelqu'un d'équilibré pense à violer une femme.
Des types en manque ?
Oh, personnes qui sont pas normales.
Vous avez déjà violé des femmes ?
Oui.
Est-ce que tous les hommes sont des violeurs en puissance ?
Mmh. C'est possible, c'est pas sûr.
Et qui sont les femmes qui se font violer ?
Celles qui sont imprudentes.
C'est-à-dire ?
Les aguicheuses.
Ça dépend de leur tenue, je crois, vestimentaire. C'est leur façon d'aguicher peut-être les passants qui font qu'elles se font violer.
Des pauvres filles, quoi, hein, qui se sont laissées avoir. Hein.
Celles qui veulent bien.
Une femme qui est majeure n'est pas obligée de être violée parce qu'elle a déjà... Elle a été mariée ou elle était avec un homme déjà. Une fois qu'elle était avec un homme, une fois, on peut plus.
C'est pas
impossible.
Est-ce que les femmes qui se font violer l'ont provoqué d'après vous ?
Non.
Non,
non. Je pense pas.
Mais vous disiez qu'elles étaient consentantes.
Il arrive un moment où elles sont consentantes.
Il faut qu'une femme soit consentante pour être violée.
Est-ce qu'on peut violer une femme sans son consentement?
Ça doit pouvoir arriver, oui, parce qu'il doit y avoir une question de force physique qui doit jouer, je pense, oui.
On ne doit pas pouvoir les violer.
On ne doit pas pouvoir les violer.
On ne doit pas pouvoir les violer. Remarque, je vous dirais bien la technique pour les violer. On n'a qu'à les renverser.
Ouais.
C'est tout.
C'est difficile de violer une femme quand elle ne veut pas. Hein ?
Ce sont des femmes qui en ont envie, de toute façon.
Certaines, peut-être, ça ne leur veut pas.
Quand une femme dit qu'elle s'est fait violer, est-ce que vous la croyez ?
Pas toujours. Il y a toujours quelqu'un qui est consentant.
Pas vraiment toujours, mais la réaction qui consiste à douter systématiquement de leur réponse, à mon avis, n'est pas fondée non plus, car le vrai viol existe bel et bien.
Le viol à proprement parler, ça n'existe pas. Ou il faut vouloir, ou... Voilà, c'est tout.
C'était donc en 1976, il y a 50 ans, à une époque où on ne risquait pas grand-chose en cas de viol et quasi rien s'il était conjugal. Mais bientôt, grâce à l'avocate Gisèle Halimi, les choses vont changer. À travers sa défense de Anne Tonglet et Araceli Castellano, deux jeunes touristes belges lesbiennes de 19 et 24 ans violées par trois hommes près de Marseille 2 ans plus tôt, l'avocate va transformer ce procès en tribune pour dénoncer la culpabilisation des victimes et exiger la pénalisation du viol. On l'écoute ici s'expliquer à ce sujet avant donc que le procès n'ait lieu.
Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, c'est-à-dire, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité. Cour d'assises et publicité. Parce que nous pensons que une chose pour un homme est de violer, et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion. Mais je le répète, nous ne sommes pas répressifs. Chaque fois qu'on nous a demandé des mises en liberté provisoire de violeurs, Choisir a dit banco. Ça veut dire que nous n'avons jamais pensé que la prison pouvait être une bonne thérapeutique. Mais ce que nous trouvons suspect et inadmissible, c'est que la campagne se fasse contre l'emprisonnement des violeurs. Elle ne se fait pas ailleurs. C'est un signe important, ça veut dire violer une femme, c'est pas grave au point qu'on mette des hommes en prison. En revanche, voler dans un drugstore ou faire un chèque sans provision, la prison, oui. Alors nous disons, si vous voulez supprimer la prison, pour tout le monde, comme système, nous signons des deux mains. Mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, eh bien c'est une indication qui est grave et qui signifie que vous considérez que c'est une chose banale, anodine. En fait, une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui ne s'en remettra, à mon sens, jamais. Elle entre dans une espèce de coma, en tout cas une partie d'elle-même entre dans une espèce de coma et elle survit, je crois, d'une espèce d'autre vie. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ça n'est pas pour elle s'en remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies.
Vous pensez que les hommes, tout de même, un jour, violeront de moins en moins ?
Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que je dois être optimiste, autrement je ne les mènerai pas. Je pense qu'en tout cas, l'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. Ce n'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
Les deux jours d'audience de ce procès, qui se déroulera 2 ans plus tard, en 1978, donneront lieu à un déferlement de haine à l'intérieur comme à l'extérieur du palais de justice. C'était extrêmement violent, racontera l'une des victimes, Anne Tonglet. Il y avait des crachats, on recevait des insultes. Gisèle Halimi a même été giflée. C'était inouï. mais la justice fera son œuvre et les violeurs seront condamnés. 6 ans de réclusion criminelle pour le meneur de l'expédition punitive, 4 ans pour ses 2 complices. Un procès mémorable qui sera, comme Gisèle Halimi l'avait espéré, à l'origine d'une nouvelle loi promulguée en 1980. Le viol étant redéfini comme un crime, au-delà de la seule relation vaginale, donc également en cas de fellation imposée, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, et puni d'une peine allant de 15 ans de prison ferme jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité en cas de récidive ou si le viol est accompagné de torture. Qui plus est, le huis clos ne sera plus automatique. En 2025, une nouvelle loi précisera chez nos voisins que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Pour info, en Belgique, depuis la réforme du code pénal de 2022, celui-ci désignera enfin le crime qu'est le viol comme tout acte de pénétration, quel qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas. Avec à la clé des peines de 5 à 10 ans de prison, voire bien davantage au vu de circonstances aggravantes. Quant au délai de prescription, s'il s'élève à 10 ans pour les victimes majeures, il n'existe pas pour les viols de mineurs, ce qui permet aux victimes ayant subi des violences sexuelles enfants, ayant connu une amnésie traumatique totale ou partielle après les faits, de porter plainte lorsqu'elles arrivent enfin à verbaliser ce qui leur est arrivé. Que diriez-vous à présent, histoire de changer un peu d'air, d'un bain d'utopie folk et humaniste organisé à Floreffe en 1976 ? Les 5, 6 et 7 juin 1976, un festival nommé le Temps des Cerises se déroule dans le cadre de l'abbaye de Floreffe, cristallisant le mouvement folk qui enfle alors en arrière-plan de la société. Une rêve-olution pour un autre monde plus humain, une émanation en fait de l'émission radio Marie Claps Sabot de Bernard Gillin, qui chaque semaine sur les ondes de la RTBF parcourt les villages à la recherche du folklore musical. Comme s'en souvient ici celui qui, avec Jean-Louis Bill et Philippe Grombert, a créé ce festival Le Temps des Cerises.
Pour indicatif, voici le fa pour Marie Claps Sabot.
Marie Claps Sabot est une émission de radio. Le principe, ça a toujours été le principe de toute ma vie, c'était de rencontrer les gens d'ici, de leur parler et de basculer leur imagination et leurs idées sur antenne. Donc, on était un peu comme des laboureurs de trésors. Hein. On labourait avec notre micro la terre wallonne et on essayait d'en tirer toutes les énergies positives possibles et imaginables dans tous les domaines. Hein.
Et donc, en 1976, ce festival, le Temps des Cerises, Bernard Gillin toujours.
C'était confronter la découverte des musiques populaires de Wallonie et de les confronter aux musiques du monde. Et c'est ainsi qu'on a créé le Festival du Temps des Cerises en 1976. Il fallait trouver un lieu magique, et ce lieu magique, c'était l'abbaye de Floreffe. Alors la cerise, c'est rouge, c'est à la couleur de la Révolution, et nous, on voulait faire notre petite révolution. On voulait changer le monde, on était à la lisière de mai 68, les années 70 étaient les années de tous les possibles, donc on s'est dit c'est le moment, quoi. Allons-y, les barricades musicales, etc. Et puis on s'est lancé dans cette aventure-là. Et, we'll make a space in the light. Buffy Sainte-Marie, chanteuse indienne, venait du Canada. Et Unia Ramos, musicien andin, venait bien sûr de l'Amérique du Sud. Et il y a eu un concert des deux parties, et puis les deux se sont rassemblés à un certain moment. Unia Ramos et Buffy Sainte-Marie étaient là pour affirmer leur indemnité, et c'était un moment très, très, très fort. Il y a eu aussi Renaud, il est venu au Temps des Cerises en 1977 avec sa guitare, son accordéoniste et sa casquette, et il a chanté sur le pavé, quoi. Et c'était une fête parce que l'abbaye est un lieu magique. Et le fait que ce lieu était un lieu qui vous obligeait à circuler, les gens bougeaient. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas béats devant un podium. Ils pouvaient circonvolutionner comme les moines le faisaient autour de leur toit. 1979, date de du dernier temps des cerises, le village a été aussi investi parce que nous avons été tout étonnés d'avoir 15 000 personnes en 1976 et puis 35 000 en 1977 et 50 000 en 1979. Ce qui était pour nous, pour revenir à l'émission de radio, ce qui était pour nous un sondage extraordinaire. De cette petite entité radiophonique, il y a une immense collectivité qui se crée. Le temps des cerises s'est arrêté parce que c'était notre volonté d'arrêter le temps des cerises. On ne pouvait pas continuer à chanter notre chanson éternellement. Et quand on ne chante pas une chanson éternellement, et qu'on n'en fait pas une institution, si quelque part ça a touché les gens, ça devient un symbole, ça devient emblématique. Ça ne s'oublie pas.
Bernard Gillin, qui, il y a une vingtaine d'années, se souvenait du temps des cerises créé en 1976 et qui confiera par ailleurs qu'un chef de gare lui a un jour raconté qu'un petit malin avait tiré la sonnette d'alarme du train Paris-Cologne et que celui-ci s'était instantanément vidé à Floreff lors d'une halte imprévue, les passagers rejoignant vite le festival. C'est à Bruxelles que s'est tenu en mars 1976 le Tribunal international des crimes contre les femmes qui a réuni 2000 femmes provenant de 46 pays, femmes venues témoigner des injustices qu'en tant que femmes elles subissaient. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, ce tribunal n'était pas une réelle juridiction, mais une tribune politique féministe, laquelle avait deux objectifs, faire reconnaître l'aspect systémique des oppressions subies par les femmes et offrir un espace de rencontre transnationale pour renforcer les liens entre différents groupes féministes. En réalité, tout avait commencé 2 ans plus tôt, en 1974, lors d'un camp d'été international lesbien sur l'île danoise de Fémo, lors d'un atelier thématique dédié à l'année de la femme que l'ONU avait décidé d'organiser l'année suivante, en 1975, pour mettre la condition de la femme au centre des préoccupations de ses États membres. Une annonce moquée par les mouvements féministes qui ont vu une récupération politique et une instrumentalisation de leur lutte. Cherchant un moyen de visibiliser leur désaccord vis-à-vis de cette année de la femme, les participantes de ce camp d'été à FEMO ont échangé des idées de contre-action et parmi celles-ci, ce Tribunal international des crimes contre les femmes. Pour le mettre sur pied, des comités seront créés dans de nombreux pays et sur différents continents et une campagne d'autofinancement organisée avec des récoltes de fonds lors de lectures de poésie, de conférences, de ventes de pins, d'affiches et d'ouvrages. Et c'est ainsi qu'entre le 4 et le 8 mars 1976, je le disais, plus de 2000 femmes de 46 pays se retrouveront au Palais des Congrès de Bruxelles. La comédienne Delphine Seyrig en sera avec son association Les Insoumuses, les participantes étant accueillies par une lettre de Simone de Beauvoir exprimant son soutien et demandant qu'on l'excuse pour son absence imprévue. Pendant 4 jours, il sera question des inégalités dans le mariage, de l'impossibilité de divorcer dans certains pays, que cela soit à cause de la loi, de la famille ou de la religion, des mutilations génitales sexuelles féminines ou encore de la lesbophobie. Chez nous, cet événement agira comme un puissant catalyseur, notamment pour la création de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. Au-delà, ce tribunal international verra l'émergence d'une notion qui ne s'imposera que dans les années 1990 et 2000, l'intersectionnalité. Les organisatrices de cette rencontre ayant cherché à croiser les rapports sociaux de sexe, de classe et de race pour montrer que, par exemple, les violences infligées aux femmes blanches en Europe sont différentes de celles subies par les femmes noires aux États-Unis ou par les femmes aborigènes en Australie. Et puis, c'est aussi au sein de ce tribunal que la sociologue féministe sud-africaine et américaine Diana Russell a défini le terme de féminicide, même si à l'époque on parle plutôt de fémicide, l'idée étant d'inventer un mot qui indique que les victimes ont été choisies parce qu'elles étaient des femmes. Alors pourquoi cet événement, sorte de MeToo bien avant l'heure, fut-il oublié ? Une observatrice avance qu'en faisant le choix d'organiser l'événement en non-mixité féminine, le tribunal s'est coupé d'une couverture médiatique importante, ce qui a certainement contribué à en réduire la visibilité, son impact restant dès lors minimisé ou ignoré. Heureusement, l'historienne belge Mylène Le Goff, déjà organisatrice à Bruxelles il y a 3 ans d'une exposition sur cet événement, vient de publier un ouvrage à lui dédié aux éditions hors d'atteinte. On clôture ce périple avec Patti Smith, rencontrée il y a 50 ans, donc dans les coulisses du Cirque Royal de Bruxelles, laquelle Patti explique en anglais qu'il y a beaucoup de raisons d'être honteuse, d'être américaine. Ses compatriotes sont tellement matérialistes, mais au moins, les Américains ont inventé le rock'n'roll. Bien sûr, dit-elle, il y a dans ce pays des peintres majeurs, Pollock, de Kooning, d'origine hollandaise, mais c'est avec le rock'n'roll que les États-Unis sont réellement rentrés dans l'histoire culturelle mondiale. Ce que Patti va nous dire à sa manière et avec cette voix pleine de fougue et de complicité.
Being an American, there's a lot to be ashamed of, you know. It's like there's a lot to be proud of, but I know, you know, that Americans are like middle class and very materialistic and all, but we did do one good thing. We created rock and roll. It's to me the one thing that made America great, you know. It's like, and now America no longer is. Rock and roll doesn't belong to America, it belongs to the universe, it belongs to the world. And rock and roll is the first real American art. We did abstract expressionism, we had Jackson Pollock, Willem de Kooning, but it was still European energy. And at last, rock and roll, we did something. It's like finally we won our place in cultural history.
Notre voyage à travers l'année 1976 se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.